Station 5.
Le grand incendie. Mardi 12 juillet 2022, la teste de bûche, 15h. Les sapeurs-pompiers sont appelés pour un départ de feu. Rapidement, l'incendie se propage dans le massif, aidé par des conditions climatiques très défavorables. Sécheresse, déficit hydrique favorisé par le réchauffement climatique. Température caniculaire avec des pointes à plus de 40 degrés. Vent violent et imprévisible. Malgré l'intervention des moyens aériens, Canadair, Dash, les flammes gagnent du terrain. Depuis la crête de la dune, les vacanciers et les habitants contemplent un spectacle déchirant. Pendant une dizaine de jours, ce feu hors norme va s'étendre sur plus de 6000 hectares, zone d'incendie de 37 km de périmètre, jusqu'aux rives du lac de Cazaux, de la frontière des Landes et jusqu'au littoral.
C'est un pan de l'histoire qui disparaît, à l'image des pains-bouteilles gémés et des chaînes multiséculaires calcinées, emportant avec eux une partie de notre patrimoine.
Insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux, mammifères, mais également plantes à fleurs, lichens, mousses et champignons. Toutes les strates de la biodiversité ont été profondément impactées par cet incendie de grande ampleur. Grâce à l'engagement et la solidarité de tout un territoire, des hommes, des femmes, des services de sécurité et de secours, des institutions, des bénévoles issus de la population locale, le feu a pu être contenu, ici, à quelques mètres de l'espace d'accueil. Si le paysage de la dune emportera encore longtemps les stigmates, c'est une page nouvelle qui commence pour la renaissance de cette magnifique forêt, indissociable du grand site.
L'histoire de la forêt. Depuis la crête de la dune, votre regard domine la forêt usagère de la teste de bûche avec son relief marqué. Cette forêt millénaire recouvre d'anciennes dunes.
En vous promenant ici au siècle dernier, vous auriez remarqué l'entaille ou la carre réalisée par le gémeur sur les troncs des pins afin d'en recueillir la résine. La gemme produite par l'arbre pour cicatriser est alors récoltée dans des pots en terre cuite ou cutiaux. Ces blessures sont encore visibles sur certains pins. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le gémage constitue l'un des moteurs de l'activité économique locale et la source de revenus pour de nombreux habitants. Utilisée dans l'industrie chimique et pharmaceutique, la résine servait, une fois distillée, à la fabrication de peintures, de parfums, de savons, etc. Les conditions de vie sont rudes au XIXe siècle. Les gémeurs sont décrits comme des gens humbles, travailleurs, habiles à leurs tâches, souvent solitaires car ils vivent isolés en forêt, dans leur cabane. Pour gagner sa vie, un résinier doit s'occuper de 3000 à 6000 pins. Toute la famille participe à la récolte, vit dans les pots et transportant la gemme.
Les hôtes discrets de la dune. Une ombre qui flotte à l'horizon sur la crête, des traces éphémères qui s'effacent dans le sable. Les hôtes de la dune se font discrets, suivez leur empreinte. La faune et la flore sauvage présentent une grande diversité d'adaptations aux conditions extrêmes du littoral. Les embruns salés, le vent intarissable, le sol instable, le manque d'eau, le piétinement. Cet écosystème fragile et protégé a su tirer profit de ce milieu naturel. Entre plages et forêts, le grand site se pare de multiples couleurs en fonction des plantes qui s'y développent. Dans la continuité de la plage se trouve la dune dite blanche, aussi nommée dune mobile. Son nom vient de la couleur du sable que de rares végétaux tentent de fixer. Exposée au vent, elle est toujours en mouvement. L'euphorbe maritime, Euphorbia paralias, y pousse en touffes denses. C'est par ici que niche le très discret gravelot à collier interrompu, Charadrius alexandrinus. Ses œufs se confondent avec le sable, ce qui les rend très exposés au piétinement. Attention où vous posez les pieds. Avez-vous déjà vu dans le sable des lignes d'arabesque? Ce sont les traces du passage de la couleuvre à collier helvétique, Natrix helvetica. Non venimeuse et totalement inoffensive, celle-ci sort le jour pour chasser. Elle adapte sa méthode de déplacement dans le sable. Le lièvre d'Europe, Lepus europaeus, est un habitant de la dune blanche. Il s'y cache le jour, ne laissant comme indice de son passage que des amas de petites crottes ovales. Pour l'apercevoir, il faut attendre la tombée du jour lorsqu'il sort pour se nourrir, ou venir au printemps, lors de la saison des amours où il se montre plus audacieux et sort en pleine journée. En surface, les plantes sont peu développées afin de résister au vent parfois très violent. Leurs tiges et leurs feuilles sont épaisses, charnues, parfois couvertes de poils, et leurs tissus leur servent de réservoir d'eau. En profondeur, leur système racinaire impressionnant leur permet de s'ancrer profondément dans le sable tout en cherchant l'eau. Certaines essences comme l'oya, appelée localement le gourbet, Ammophila arenaria, jouent un rôle majeur dans la fixation des dunes côtières. Ces longues feuilles dessinent des cercles dans le sable et ont la faculté de se replier par temps sec. Le panico maritime, Eryngium maritimum, est une autre plante typique de ce paysage. Ses fleurs d'un bleu métallique s'épanouissent de juin à septembre. Le conservatoire du littoral en a fait son emblème.
La linaire à feuilles de thym, Linaria timifolia, avec ses petites fleurs jaunes, et le gaillier des sables, Gallium arenarium, sont plus discrets.
Endémiques du littoral franco-ibérique, ces plantes ne poussent nulle part ailleurs dans le monde. En retrait du littoral, derrière la dune blanche, la dune se teinte de gris. On y trouve l'armoise de Lloyd, Artemisia campestris submaritima, aux teintes argentées vertes et aux jeunes feuilles velues. L'immortel des dunes et les Chrysum stoechas forment des bosquets denses gris-argentés. De juin à septembre, ces petites fleurs jaunes dégagent au soleil une odeur épicée de curry. Du silène de Porto, Silène portensis, aux petites fleurs blanches, aux sénessons livides, Senecio lividus, aux inflorescences jaunes. Tous ces noms forment une florissante végétation. Sur la plage. Depuis la plage, jusque sous ses eaux vertes et bleues, le bassin offre une mosaïque de paysages. Au pied de la dune, côté océan, une végétation de zones humides borde la plage. Ces plantes, hérisses jaunes, roseaux, sont baignées à la fois par de l'eau de mer à marée haute et par l'eau douce s'infiltrant dans la dune. Durant la belle saison, le caquilier maritime, Cachyle maritima, colore les hauts de plage de ses petites fleurs blanches, roses ou violettes. Pour survivre, il isole le sel dans une partie de ses feuilles. Celles-ci jaunissent alors. La plante sacrifie ainsi une partie d'elle-même. Le caquilier germe après les marées d'équinoxe et disparaît en hiver. La vie animale se concentre au niveau de la laisse de mer, formée de restes d'animaux, de végétaux et hélas de déchets peu naturels, déposés par les vagues sur la plage. Des insectes et petits crustacés comme la puce de mer, Thalitre, viennent s'y nourrir. Ils sont à leur tour la proie des oiseaux comme le bécasso sanderling, Calidris alba.
Depuis la crête de la dune en direction du banc d'Arguin, les colonies de bernaches cravants, Branta bernicla, se posent sur le bassin d'Arcachon chaque hiver. Pour arriver jusqu'à ce doux nid, elles parcourent près de 6000 km depuis la Sibérie.
Et sous les eaux du bassin. Plongées dans les eaux du bassin, elles recèlent des richesses comme le plus grand herbier à zostère d'Europe, Zostera spp. Tandis que la zostère marine, Zostera marina, pousse en eau profonde, la zostère naine, Zostera noltée, se développe sur les vasières découvertes à marée basse. Ces plantes à fleurs abritent de nombreuses espèces de poissons et de coquillages. Vous y croiserez peut-être un petit poisson à la silhouette si singulière, l'hippocampe à museau court, Hippocampus hippocampus, ou l'hippocampe moucheté, Hippocampus gutulatus, à la robe plus contrastée et aux filaments cutanés sur le dos et la tête. Ils vivent dissimulés dans des herbiers de zostères marines sur des fonds meubles, sable, vase. Ces êtres à part et fragiles sont des espèces patrimoniales du bassin. Enfouis sous le sable, l'arénicole marin, Arenicola marina, aussi appelé ver de vase ou ver noir, tend ainsi d'échapper aux poissons et aux oiseaux marins. Ces vers peuvent représenter jusqu'à 30% de la quantité totale d'organismes vivants d'une plage. Véritables sculpteurs, les tortillons qui ornent nos plages sont formés par leur rejet de sable après digestion. Si la chance est avec vous, peut-être observerez-vous sans les approcher de jeunes phoques gris, Halicoerus gripus. ces farouches mammifères marins qui s'installent généralement dans des endroits éloignés des activités humaines viennent parfois se reposer sur les plages en hiver. Les hôtes discrets de la forêt. La faune et la flore sauvages ont été durement impactées par l'incendie de grande ampleur de l'été 2022. Les grands et moyens mammifères ont tenté de fuir les flammes, mais les insectes et les plus petits animaux sont restés prisonniers. Depuis, la nature reprend peu à peu ses droits. La grande fougère aigle, Pteridium aquilinum, sert d'abri pour de nombreux animaux tels que la genette d'Europe, Geneta geneta. Très discret, ce mammifère passe ses journées à dormir et vit la nuit. Regardez attentivement le sol à la recherche de ses empreintes. Au cœur de l'été, des craquements secs et pétillants résonnent dans la forêt. Ce sont les gousses du genêt à balai, Citicus coparius, qui éclatent, projetant ses graines au loin. Attention à ne pas confondre ces belles fleurs jaunes avec celles de l'épineux ajonc d'Europe, Ulex europaeus. Si vous trouvez des pignes grignotées, levez la tête et regardez entre les branches, peut-être apercevrez-vous un écureuil roux. Cyrus vulgaris, ce rongeur raffole des fruits du pin. En lisière de forêt, à l'aube et au crépuscule, vous aurez une chance d'apercevoir des mammifères s'aventurant sur la dune. Les traces d'un amateur de fougères, le chevreuil, Capreolus capreolus, ou bien celles d'un hôte de pois, le sanglier Suscrofa.
Au pied des chênes pédonculés, Quercus robur, celui-ci retourne et fouille la terre pour y trouver racines, champignons et autres sources de nourriture.
Dès le premier quart d'heure qui suit le coucher du soleil, la pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus, anime le ciel d'été de son vol sinueux. D'autres animaux sortent au crépuscule, comme les coléoptères au vol lourd, le hanneton foulon ou hanneton des pins, Polyphila fulo, est l'un des plus imposants de la région, jusqu'à 4 cm de longueur. Les adultes visibles, en juin-juillet, se nourrissent des jeunes pousses de pin. À l'automne, l'arbousier commun, Arbutus unedo, colore les lieux avec le blanc de ses fleurs en clochette et le rouge de ses baies. Ces dernières ressemblent à des fraises, ce qui lui vaut son surnom, arbre à fraises. Elles font le régal des oiseaux.